Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Sylvia Baron-Supervielle, qui publie « Notes sur thème » chez Galilée. Nous sommes deux intrus tombés dans une forêt de neige. Je ne vais pas rappeler une fois de plus, Sylvia Baron-Supervielle, que vous êtes née à Buenos Aires et que vous vivez à Paris depuis 1961. À Paris, vous avez écrit et publié de nombreux livres, des poèmes, des récits,
oui.
Des traductions aussi.
Oui.
Vous avez traduit quelques-uns des plus grands.
C'est vrai.
Borges, par exemple.
Oui.
On aura peut-être l'occasion d'en redire un mot tout à l'heure. Et parmi vos derniers livres, dont vous êtes venu le plus souvent nous parler ici, je citerai « Journal d'une saison sans mémoire », une reconstitution passionnelle, correspondance avec Marguerite Yourcenar, « Le pont international sur le fleuve » et « Lettres à des photographies ». Tous ces livres sont publiés chez Gallimard. Aujourd'hui, c'est « Notes sur thème ». Un très beau livre accompagné de 9 pointes sèches originales de Geneviève Haas. D'ailleurs, vous avez publié un livre sur Geneviève Haas, intitulé « Un été avec Geneviève Haas », qui est un livre d'entretien publié par l'Échoppe, il y a déjà pas mal de temps. Alors, la première question que je ne peux pas éviter, c'est qui est ce mystérieux thème écrit avec une capitale, qui est comme un héros, en tout cas une apparition.
Bon, je me souvenais en venant de cette apparition et comment elle était venue peu à peu. Je crois que c'est venu parce que j'entendais trop souvent les gens parler des livres en me demandant « Mais quel est le thème ?» ou quel est le thème de ton prochain livre? Ou est-ce que tu vas parler de ça comme thème, etc. Et donc, moi, je me sentais tout à fait à part d'un thème préétabli, encore moins. Et puis, ce mot me tournait dans la tête, thème. Et puis, tout d'un coup, je l'ai mis avec un grand T, comme si c'était un personnage. Et puis, j'ai connu, je dois dire... Michel Delorme chez Galilée, qui m'a demandé un texte. Je savais que ces livres n'étaient pas très larges, des livres assez minces. Et puis, j'ai commencé à écrire sur ce thème de thème, avec un grand T, comme un personnage qui rôde autour de l'écrivain, qui s'échappe, qui revient. Et puis, plus personnellement, ce personnage par rapport à moi. Et donc, on ne peut pas le définir complètement. Moi-même, je ne peux pas le définir. Mais c'est comme cette autre personne qui est autour de vous, à laquelle on peut ajouter que cette personne aussi fait partie de livres antérieurs de vous, de livres d'autres personnes, de tableaux, qu'il disparaît, qu'il revient. Je suis sûre que c'est plutôt un personnage masculin. Il n'a pas de forme très définie, il n'a pas de pays, il n'a rien. C'est comme un fantôme. Mais il a tout d'un coup une figure que je pourrais décrire. Il a des pantalons gris, parfois une casquette. Il est très souvent dans un port, que je crois que c'est le port de Montevideo, en Uruguay. Et ça, je l'ai pris parce qu'un personnage de Onetti, un grand écrivain uruguayen, parle d'un personnage qui est tout le temps sur le port et qui traverse tout le temps le fleuve et qui s'appelle Larsen. Donc, mais il n'est pas tout le temps ce personnage-là qui est sur le port. Il est aussi d'autres choses et je le décris comme je peux parce qu'il n'est pas facile à décrire. Mais en tout cas, il ne m'a pas quitté depuis que je l'ai créé, que je lui ai donné le nom de Thème. Et je crois qu'il ne me quittera plus, même s'il prend d'autres noms.
Et même s'il se volatilise.
Et même s'il se volatilise, comme il fait très souvent. Et non, mais ce qui m'a aussi intéressée, c'est voir comme il aime la peinture et comme, à travers la peinture et des personnages de la peinture, je le retrouvais sans m'en apercevoir. En fait, c'est quelqu'un qui me mène à des lieux mystérieux, qui m'intriguent, si qui m'émerveille. Et c'est comme quelqu'un dont je suis la trace, que je suis la trace, et lui aussi, il suit la mienne. Et puis, voilà ce que je peux dire de lui. Il n'est pas facile à décrire parce qu'il reste sans description.
Ses particularités sont imprécises.
Tout à fait. Mais je crois que tous les écrivains doivent sentir autour de soi cette présence qui est soi-même et un autre et qui vous mène au que l'on mène et aussi qui vous font évoluer, changer, varier, qui deviennent un souvenir, qui deviennent autre chose. Et c'est cette présence que j'ai voulu évoquer dans ce livre, et lui laisser aussi le mystère. Le jour qu'on a présenté ce livre, chez Galilée, il y a un monsieur qui était, je crois, américain, et qui m'a dit, moi je sais qui c'est, Thème. Alors je le regardais comme ça, j'ai dit, moi non. Et il m'a dit, c'est l'amour. Alors je suis restée vraiment bouche bée, parce que j'ai dit, oui, peut-être, c'est possible. Parce que je ressens beaucoup cet état d'amour quand j'écris. Mais il est aussi un personnage. Donc c'est peut-être un personnage qui a souffert de l'amour, je ne sais pas.
On ne peut pas dire que c'est un double.
Non, mais il m'inspire. Il m'inspire justement parce qu'il n'a pas d'identité. Et qu'il est très étrange. Et qu'il ne sert vraiment à rien, parce qu'il ne peut même pas faire du théâtre. On ne peut pas le comparer à un personnage de Beckett, par exemple. Non, vraiment, il est hors de tout ça, mais il est présent. Et peut-être c'est simplement une présence, mais comme je lui ai donné un nom, il devient plus vivant, il est devenu plus vivant. Mais en fait, pour moi, c'est une espèce de présence qui m'accompagne quand j'écris et qui me mène justement ici et là et qui n'est pas un thème comme les gens se figurent que les écrivains doivent avoir un thème pour commencer un livre. Mmh. Et justement, lui, il n'a pas de thème. Mais c'est donc le roi. Donc il s'appelle Thème. C'est peut-être un petit peu compliqué à expliquer, mais je pense qu'en lisant le livre, on peut le suivre il est très seul, il disparaît, personne ne le voit, et puis après il revient, il me photographie. Et c'est pour ça qu'on sent qu'il est, il est présent, parce qu'il vous photographie. Et puis, bon, j'essaye de le comparer avec d'autres personnages, des Indiens arrivés en Argentine et en Amérique, ou des personnages, et beaucoup des personnages de la peinture.
Vous dites, il est le roi. Est-ce qu'on pourrait franchir un pas de plus et dire il est Dieu, un Dieu caché?
Je ne sais pas, parce que je n'ai pas tellement d'admiration pour lui. Un Dieu vous donne à l'admirer ou à prier. Non, ce n'est pas un Dieu. Il est un peu manipulateur aussi.
C'est le diable alors.
Plus proche du diable, mais sans méchanceté, mais un peu magicien, un diable magicien. Enfin, je ne sais pas s'il va maintenant disparaître complètement après, à la fin du livre, ou s'il va revenir dans un autre livre sous une autre forme, mais... C'est aussi les personnages de mes... Je suis revenue en arrière à mes propres livres. Un livre qui s'appelle La Frontière, que j'ai publié chez Corti il y a très longtemps, où il y avait aussi un personnage qui dansait parce qu'il voulait rattraper son ombre et dont je ne savais pas le nom. Je l'ai décrit. Un autre personnage dans un livre qui s'appelait La Forme Intermédiaire. Et lui, c'est un personnage qui est tout le temps amoureux et qui est très seul. Et je trouvais qu'il est complètement obsédé par la figure d'une femme qui est actrice. Et je trouvais que aussi que Thém avait des réminiscences, qu'il y avait des ressemblances avec ce Manuel de La Forme Intermédiaire. Enfin, je me suis rendu compte que je l'avais déjà utilisé sous des formes différentes dont je parle un peu. Dans ce livre. Et maintenant, il apparaît nu, sans nom, simplement Thém.
Est-ce que c'est un témoin ?
Un peu, oui. Un peu témoin. Mais ce qui est dérangeant et fascinant aussi, c'est qu'il ne veut pas se dévoiler. Il ne se laisse pas dévoiler. Et s'il est un témoin, il reste silencieux. On ne sait pas s'il approuve ou s'il n'approuve pas ce qu'on écrit ou ce qu'on n'écrit pas. Il attend. Il est là, simplement. Et on ne sait pas non plus s'il a de la sympathie pour vous ou pour ce qui se passe sur le cahier ou sur ce qu'on écrit. On ne sait rien, on ne sait pas grand-chose. Sauf qu'il insiste, il revient... Il ne disparaît jamais complètement.
Vous dites, Sylvia Baron-Supervielle, que vous n'auriez pas pu le connaître ailleurs qu'à Paris.
Oui, parce que je crois que, avec le mystère de la langue française, j'ai été poussée à écrire certaines choses d'une certaine manière, ayant changé de langue. Et je crois que si j'étais restée en Argentine et si j'avais écrit en espagnol, je crois que j'aurais vraiment commencé à écrire vraiment en espagnol. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre si ce personnage serait venu à mes livres ou à mes réflexions ou à mes écrits comme ça ou à d'autres écrits. Je ne sais pas si... Parce que c'est aussi un reflet d'un étranger, d'une personne déplacée, qui n'est jamais chez lui vraiment. Donc je crois qu'il n'aurait pas existé en Argentine, en espagnol.
Peut-être qu'il s'est échappé tout simplement d'une traduction. Hein. Vous écrivez, la traduction dévoile toujours la vérité.
Oui, je crois. Est-ce que je crois ça? Parce que la traduction vous aide à voir à travers... le texte, à travers l'auteur, comme aucun livre dans sa propre langue. On devine tout ce que l'auteur, et même ce qu'il n'a pas pu dire, parce qu'il n'a pas trouvé les mots. Et je pense que la traduction, bon, c'est la poésie même. Mmh. C'est la création même, c'est la poésie même. Je pense que la poésie crée une langue, et la traduction aussi, et donc les deux se ressemblent beaucoup. Et c'est dans cette création qui sort des normes où on peut dire qu'on atteint un peu plus la vérité, pas complètement, mais un peu.
Hmm. Vous dites que vous êtes incapable de lui confier une mission, d'inventer son histoire. Son nom, ce n'est même pas vous qui lui a donné, c'est lui qui l'a murmuré.
Il a murmuré. Oui, parce que ce mot tournait autour de moi, et un petit peu parce que après cette demande de chez Galilée, qu'on m'avait demandé d'écrire quelque chose, je me disais, mais quoi? Et bien sûr, le mot qui apparaît, c'est thème. Qu'est-ce que... Bon, j'avais très envie d'écrire pour eux, d'inventer quelque chose. Et puis ce mot revenait. Et puis tout d'un coup, j'ai dit, bon, mais je vais écrire sur le mot même, disons. Et voilà comme... Non, il n'a pas de mission. Il n'a pas... Il ne veut pas me mener nulle part. Il n'a pas de message. Il est simplement comme un double de soi. Et parfois, il disparaît, il s'éloigne, on l'oublie aussi. Mais on y revient et prend d'autres noms aussi. Et il devient autre chose.
Le temps ne le touche pas. Il semble ignorer qu'il a cours.
Oui, parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai parlé de lui et que je l'ai vu ma vision de lui, comme ça, comme un personnage, il avait toujours à peu près le même âge, entre 40 et 50 ans, comme ça. Mais sans se rendre compte lui-même, non? Mais il ne vieillissait pas, il était toujours un peu le même. J'essaye de me rappeler de lui dans le livre où je le décris un petit peu, mais il est difficile à décrire aussi.
Mmh. Un peu fantôme. Vous disiez que ce fantôme, quand vous écrivez, vous photographiez.
Oui.
Pourquoi?
Parce que il veut avoir une trace de moi, il veut savoir qui je suis. Il fait ça et je ne sais pas très bien, et alors ça me trouble. Il veut garder des souvenirs. Il sort son appareil, il me photographie. Je ne lui en veux pas. Mais on essaye de ressembler à ce qu'il veut photographier. Enfin, c'est un petit appareil qu'il a là, qui trouble, disons, les échanges entre nous. Et j'aime l'idée de la photographie. Mmh. On est soi et on n'est plus soi.
C'est aussi qu'il ne discerne les choses que lorsqu'elles se présentent comme des images.
Voilà. Comme l'écrivain, qui ne discerne que des images. En fait, c'est peut-être le vrai écrivain, lui. Peut-être il ne sait pas écrire. Il est assez ignorant, lui. Et alors, mais c'est peut-être lui qui me souffle des idées, des attitudes pour lui-même et qui me mène voir des choses, des tableaux. C'est peut-être des souvenirs aussi.
Quand vous parlez de lui, l'univers de la peinture se rapproche.
Oui.
Qui est un univers très présent dans ce livre.
Oui.
Par exemple, le portrait de l'artiste au chevalet de Rembrandt.
Oui.
Que vous associez à l'autoportrait de Goya.
Voilà. C'est-à-dire tous les peintres qui ont peint des portraits ou des autoportraits, j'imagine qu'ils voulaient aussi se connaître, parce que c'est tout à fait étonnant dans l'histoire de la peinture. Ces grands peintres qui n'ont pas manqué de se mettre, de se peindre eux-mêmes, de peindre leur visage. Et je l'ai associé, oui, à ces portraits, à ces autoportraits, des peintres qui voulaient se regarder dans un miroir, ces peintres, non ? Mais peut-être pas le miroir qu'ils avaient chez eux, sinon dans un autre miroir et se présenter aux gens tels qu'ils voulaient, parce qu'ils étaient habillés d'une certaine façon toujours. Et tels qu'ils le voulaient, ils voulaient se présenter aux gens. Et ça ne doit pas être facile de faire un autoportrait, parce que en faisant de la peinture, on bouge. Alors peut-être à l'aide de photos, mais ce ne doit pas être si facile. Et pourtant, il y a des autoportraits qui sont des merveilles. Et je les ai retrouvés en écrivant ce livre. Des merveilles absolues, comme celui de Delacroix ou d'autres. Et ça revient toujours, il se représente dans la peinture et dans un autre tableau. Je ne sais pas s'il y avait la photographie à ce moment-là, peut-être pas, mais c'est une nécessité de se dire, de se représenter, de se montrer. Et c'est pour ça que j'ai associé un petit peu ce qui m'arrivait avec Thèm, avec ses peintres. Et surtout les autoportraits. Mais aussi avec des natures mortes et d'autres choses. Je parle beaucoup de la peinture.
Et vous parlez du blanc. L'importance du blanc dans ce livre. D'ailleurs, Thèm est venu à vous comme un blanc spécifique.
Oui. Oui, disons que... Aussi, j'ai pensé aux pages blanches. Disons, quand il y a des pages qui ont des blancs qui vous attirent plus que les autres blancs. Bon, si on écrit sur un ordinateur, c'est la même chose. Il y a des espaces blancs. Et on sent aussi qu'on est obligé de réinventer un blanc, de réinventer le support, non ? Et donc, lui, oui, je l'associe un petit peu à une page particulière, qui a un blanc particulier. Il est peut-être venu me le montrer, ce blanc-là. Vous savez, c'est très mystérieux d'écrire le principal. Je crois que Thèm est le mystère absolu de l'écriture, qu'elle soit poésie, prose. D'ailleurs, moi, je pense que tout est pareil. Et lui, c'est peut-être, il cherche à expliquer un petit peu ce mystère. Parce que vraiment, lorsqu'on commence à écrire et qu'on ne sait pas très bien où on va ni où on se dirige, et la façon dont les choses viennent, vous arrivent, j'essaye aussi de décrire ce qui arrive. Un écrivain, quand il commence à écrire, et quand il suit un chemin, et puis d'un coup, il y a un souvenir qui arrive, qui vous détourne. Et bon, lui, il m'a mené là, un peu vers la peinture, et un peu vers le vide. Une chose, un non-thème avec lui.
Il nous a mené, par exemple, aux peintures blanches de Goya, dont on parle plutôt des peintures noires d'habitude.
Oui. Voilà. Non, mais je regardais les peintures de Goya dans un catalogue que j'avais d'espagnol. Il y a des peintures tellement extraordinaires avec des blancs qui sont transparents, extraordinaires. Et je me suis dit, il est très grand, très fort dans les peintures noires qui sont connues, très connues. Et il est également immense dans ce que j'appellerais les peintures blanches. C'est-à-dire où les thèmes sont bien sûr plus conventionnels, parce qu'il s'agit de Grande Espagne, la Duchesse d'Albe, etc. Mais la façon de peindre, c'est une telle transparence, une telle beauté, que c'est aussi fort que les peintures noires pour moi.
Il y a un autre peintre que vous citez, c'est Matisse, selon qui les fenêtres sont un passage entre l'extérieur et l'intérieur. Et justement, pour vous, Thème est au seuil du passage et il désire y rester.
Oui. Oui. Peut-être c'est moi qui désire qu'il reste là ou que moi, je désire rester là, oui. Thème peut aussi se ressembler à une fenêtre, parce qu'il est aussi assez mystérieux de penser ce qui nous arrive avec la fenêtre, qui est comme une porte ouverte et fermée entre l'extérieur et l'intérieur. Et alors, cette fenêtre qui est ouverte tout d'un coup vers la mer ou un paysage ou des arbres, et aussi qui nous ouvre vers nous-mêmes intérieurement. Et donc, j'ai trouvé ce mot de Matisse très beau, parce que c'était comme un seuil où je peux être très souvent, comme d'autres personnes. Mais je pensais que Thème, ça lui plaisait beaucoup, cette situation au seuil, de dehors et dedans. Comme je crois que beaucoup d'entre nous nous sommes, même quand nous regardons à l'extérieur, que nous pensons à autre chose. Enfin, c'est un seuil qui est aussi à l'intérieur de l'homme.
Ce qui compte pour lui, ce n'est pas d'être né, mais de pouvoir renaître un jour. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à renaître.
C'est ça.
Il n'a pas réussi à traverser la mer, contrairement à vous, qui êtes venu d'Argentine en France.
Oui, c'est vrai. Parce que je pense que renaître, c'est très beau. C'est vraiment naître. Je pense aussi qu'on a des chances quand on renaît. Et c'est écrire aussi, quand on écrit, on renaît. Et qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette chance, ou qui n'ont pas fait cette expérience parce qu'ils n'ont pas été, disons, poussés à la faire. Non, ils sont restés sans renaître. Et Thème, le pauvre, il est un peu relégué à la renaissance. Et alors, ça me faisait de la peine de le sentir qu'il n'avait pas la chance que j'avais eue. Et donc, lui, il ne peut pas. Il est resté dans un passé ancien. Et il ne peut pas arriver. Parce que quand on renaît, quand on traverse la mer et on change de langue, c'est les souvenirs qui comptent le plus, non ? Et qui se mettent à vivre d'une façon très forte, très colorée. Et alors, comme lui, il ne peut pas renaître. C'est pour ça qu'il reste toujours un peu dans une sorte de grisaille, dans un port où il n'arrive pas à prendre le bateau. Les autres s'embarquent, mais lui, il est toujours là. Et oui, je pense que renaître, c'est naître. C'est vraiment naître.
Je voudrais qu'on dise un mot avant de nous quitter, Sylvia Baron-Supervielle, d'un autre livre qui est apparu il n'y a pas très longtemps, un livre de Borges que nous citions au début de l'émission. Ce sont les poèmes d'amour chez Gallimard dans la collection du Monde Entier, qui est édité, préfacé et traduit par vous, avec un avant-propos de Maria Kodama. Votre préface s'intitule « L'homme menacé ». Et vous dites que la poésie de Borges est peut-être ce qui, dans son œuvre, est le plus immédiatement proche de vous. Vous l'avez lu avec passion à Buenos Aires, à mesure que les poèmes paraissaient, les grands cahiers qui étaient édités là-bas, de diverses couleurs. Presque tous les cahiers de Borges contiennent un poème d'amour.
Oui, et un poème d'amour malheureux. Mais en même temps, c'est comme une constatation, ce qu'il fait de très beau, c'est que dans ce poème d'amour qui apparaît dans chacun de ces cahiers que je lisais en Argentine et ça m'a beaucoup frappée parce que personne ne l'a remarqué ou très peu de gens, mais moi ça m'a marqué énormément parce qu'il employait les mêmes thèmes qu'il emploie, toujours, justement. Enfin, les thèmes de l'épopée, ou des langues, ou des guerres. Et puis, finalement, dans les derniers vers, il révélait quelque chose. C'est-à-dire, bon, tout ça existe, mais maintenant, je ne le vois plus. Parce que tu n'es pas là, parce que tout a changé. Parce que cette chambre où je suis, elle ne l'a pas vue. Et ça finissait comme ça. Moi, je trouvais ça extraordinaire, parce que c'était comme un constat, comme si quelqu'un du dehors décrivait un homme menacé d'amour. Et justement, ce nom, l'homme menacé, c'était le titre d'un poème, un des plus beaux du livre. Et c'est ce qui arrive. Alors lui, il dit, c'est l'amour. Et je n'y peux rien. Et voilà, j'oublie tous mes talismans. Alors il fait toute une description des choses qui l'ont tellement touché. Ceci, cela, ceci. L'histoire de l'Argentine, l'histoire de sa mère, les guerres, les langues. Ça, il fait tout ça. Tous mes talismans n'existent plus. Être avec elle ou ne pas être avec elle est la mesure de mon temps, dit-il. Et il finit comme ça. Et ce livre s'appelle L'homme menacé. Et ce qui m'a énorme, ce qui toujours m'avait beaucoup, beaucoup frappé, c'est la façon de constater, c'est-à-dire je vais faire la description de quelqu'un qui est malade, enfin pas malade, mais qui est en état d'amour. Je vais le décrire. Il se trouve que c'est moi. Et c'est ça qui est la beauté et la force de ces poèmes d'amour. Et je les ai tellement aimés que j'ai fait des photocopies le long du temps, quand je lisais ces cahiers. Puis quand j'ai eu les œuvres complètes de Borges, les poèmes complets, je les ai de nouveau repérés et je les ai passés à l'ordinateur. Et puis j'ai eu envie de les traduire. Mais j'ai fait les premières photocopies datent d'il y a 30 ans ou plus. Et un jour, je les ai retrouvées dans une chemise. Il y avait écrit comme ça, « Poema de amor Borges ». Et c'est tout. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et je vois. Et ils faisaient... C'était si bien ensemble. Je les avais photocopiés un par un, dans différents livres. Ils faisaient une telle cohérence. C'était si beau ensemble que je me suis dit, ah non, mais là, je vais les traduire. C'est comme ça, l'histoire.
Note sur thème, le livre de Sylvia Baron-Supervielle est publié chez Galilée et nous avons dit un mot des poèmes d'amour de Borges qu'elle a traduit récemment chez Gallimard dans la collection du Monde entier. Du jour au lendemain, Benjamin Vignal, Gilles Davidas, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir.
Thank you.